Chapitre 11. L'enterrement. Le lendemain soir, à 9h45, le train venant de Cologne entrait dans la gare de l'Est. Avant même qu'il se fût complètement immobilisé, Hector Mancel sautait sur le quai et courait vers la sortie. Boulevard de Strasbourg, il entra dans le premier café qui se présenta à lui. « Est-ce que je peux téléphoner ?» demanda-t-il encore tout essoufflé. « Prenez un jeton. » « Eh bien, donnez-m'en trois. » Il descendit à la hâte dans le sous-sol, demanda Wagram 4624. « C'est toi ? » demanda-t-il au bout d'un instant. « Alors ? » ?»« Rien. » »« Il n'est pas ressorti ? » ?»« C'est ennuyeux. » »« Eh bien, tant pis, il va falloir chercher ailleurs. » »« Et Madame Nervray ?»« Ah, bien, je m'en doutais. » »« Au revoir, à demain. » « Bien, heureusement que je suis rentré à temps. J'irai. » Hector Mancel raccrocha, remit un autre jeton dans l'appareil et demanda cette fois Passy 18-19. « C'est vous, Madame Nervray. Ici l'inspecteur Hector Mancel. Il faut absolument que je vous voie ce soir. Est-ce que vous pouvez vous trouver dans un quart d'heure au forum, à la Madeleine ? J'ai une communication très importante à vous faire. Vous y serez ? Bien, c'est entendu. « À tout à l'heure, madame. » Il raccrocha de nouveau et demanda là encore un autre numéro. Puis, toujours avec la même précipitation, il sortit et là un taxi. « Place de la Madeleine. » Lorsque l'inspecteur pénétra dans le bar du forum, madame Nervray n'était pas encore arrivée. Deux ou trois couples conversaient à voix basse. Mancel s'assit dans un coin, commanda une liqueur, puis tira de sa poche son portefeuille. Avec attention, il examina quelques papiers. Sur l'un d'eux, quatre timbres de 5 centimes étaient collés. D'un œil attendri, le policier les contempla longuement. Bien qu'ils n'eussent pas été oblitérés, ils étaient froissés, légèrement déchirés. Il n'eut pourtant pas le temps de s'attendrir davantage. Madame Nervray venait d'entrer. Se levant aussitôt, Hector Mancel alla à sa rencontre, puis, lui cédant sa place, lui demanda ce qu'elle désirait prendre. « Oh, rien, rien ! Je suis venue pour un instant. Que me voulez-vous ? » « Peu de choses, madame. J'ai appris que M. Pommier vous avait rendu visite, ou plutôt, j'aimerais avoir la confirmation de ce que je suppose. »« Que supposez-vous ? » ?»« Je suppose que ce monsieur est venu vous demander de l'argent. » « C'est exact. Je dois vous dire pourtant que je lui en ai donné très volontiers, car je considère qu'il est de mon devoir de réparer, dans la mesure où cela m'est possible, le mal que lui a fait mon mari. » « C'est très louable. Pourtant, serait-il indiscret de vous demander dans quelle mesure vous êtes venu en aide à ce pauvre homme ?»«
J'ai fait tout ce que j'ai pu. »
« Vous lui avez donné de l'argent ?»«
Oui. »
« Sous quelle forme ?»
« Que voulez-vous dire ? » ?»«
Enfin, lui avez-vous donné de l'argent de la main à la main, ou bien lui avez-vous signé un chèque ?»«
Je lui ai signé un chèque. » »«
Montant à combien ?»«
À 21 000 francs. »«
Avez-vous barré ce chèque ?»«
Oui. » »«
Ah, c'est très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. » »« Naturellement, ce chèque n'a pas été présenté à l'encaissement. » »«
Je l'ignore. »
« Voulez-vous demain matin téléphoner à votre banque pour le savoir ? Vous demanderez par la même occasion quel est l'établissement de crédit qui s'est présenté pour l'encaisser. »«
C'est entendu, monsieur. »«
Mais vraiment, vous ne désirez rien prendre ?»«
Non, merci. » »«
Cela m'est désagréable de vous avoir fait venir jusqu'ici pour vous poser des questions aussi peu importantes. Je voudrais beaucoup que vous acceptiez de prendre quelque chose. » continua Hector Mancel, qui attachait une grande importance aux consommations.
« Si vous insistez ?»
L'inspecteur appela le barman, commanda deux autres liqueurs. « J'ai beaucoup de sympathie pour vous, madame, » dit-il avec une tendresse respectueuse.
« Je vous remercie, monsieur. En ce moment où tout le monde se détourne de moi, il m'est agréable de vous l'entendre dire. »
« J'ai beaucoup de sympathie pour vous, madame, justement parce que j'ai deviné que tout le monde se détournait de vous, parce que, aussi, je me suis aperçu que vous aviez un très grand cœur. »
Il parlait avec émotion. Sa voix tremblait légèrement. La beauté de Madame Nervray l'avait frappé et il essayait de le lui faire comprendre, sans pour cela paraître profiter de la petite importance que lui donnait le rôle qu'il jouait dans la vie de cette femme.
« C'est mon attitude vis-à-vis de M. Pommier qui vous fait dire cela ?»«
Oui, et d'autres choses également. » »«
Je vous répète que je n'ai aucun mérite à secourir cet homme. C'est un devoir dont toute femme dans ma situation s'acquitterait. »
Ne le croyez pas.
J'en suis certaine.
Ne le croyez pas.
10 minutes plus tard, Hector Mancel sautait de nouveau dans un taxi.
À l'Étoile, dit-il.
Aussitôt arrivé, il s'engagea dans l'avenue Wagram. Arrivé au coin de l'avenue des Ternes, il entra dans un grand café. Après avoir parcouru les différentes salles sans trouver la personne qu'il cherchait, il revint se poster aux abords du Tambour. Finalement, lassé d'attendre, il s'éloigna. Le lendemain, à midi, la rue de l'université présentait, comme on dit, une animation inaccoutumée. Des agents, par groupes de 5 ou 6, passaient et repassaient dans les rues voisines. Des admirateurs de Suzy Pommier, des promeneurs, des curieux, se pressaient dans le quartier d'ordinaire silencieux. Bientôt, une voiture couverte de fleurs, puis une autre, s'arrêtèrent aux abords de l'immeuble où la vedette avait habité. Les journaux du matin avaient annoncé que l'enterrement de Suzy Pommier, la célèbre vedette lâchement assassinée par son amant, allait avoir lieu dans la matinée. En face de l'immeuble du crime, une dizaine de photographes avaient braqué leurs appareils. Aux fenêtres de toutes les maisons, des gens étaient accoudés, attendant le départ du convoi. Soudain, le corbillard fit son apparition, encadré d'une douzaine d'employés des pompes funèbres, portant chacun leur pèlerine roulée sous le bras. C'était une modeste voiture, contrastant avec l'importance de cet enterrement. Parmi les privilégiés autorisés à stationner devant la porte dressée de noir, on remarquait tout un monde peu fait pour être réuni. Des actrices élégantes côtoyaient de pauvres employés. Monsieur Escamp, très noir, très pâle, se tenait un peu à l'écart. Jean Rivière parlait à une vieille dame. Une délégation du syndicat des artistes arriva peu après et, sur la prière d'un brigadier, se rangea sur le trottoir. La circulation n'avait pas été interrompue. Aussi, toutes les voitures, en passant devant le 17 de la rue de l'Université, ralentissaient-elles au point de s'arrêter. 3 sergents de ville, à coups de sifflet, les faisaient circuler. Soudain, des ordres partirent de l'intérieur de la maison. D'agent en agent, la consigne de ne plus laisser passer de voiture circula. Il y eut un silence, tout le monde se découvrit. 4 hommes, portant sur leurs épaules le cercueil dans lequel reposait pour toujours Suzy Pommier, venaient d'apparaître dans l'entrée de l'immeuble. Ils traversèrent le trottoir, poussèrent rapidement le cercueil dans le corbillard. À ce moment parut, soutenu par un employé des pompes funèbres, le père de l'artiste. Tout de noir vêtu, pâle, tenant à peine sur ses jambes, il faisait peine à voir. 3 ou 4 personnes suivirent encore. Puis, lentement, le corbillard s'ébranla, précédé par les 2 voitures, surchargées de fleurs et de couronnes. Aussitôt, une ruée se fit pour suivre le convoi. Parmi la foule, il était un homme, pourtant, qui, bien que passant inaperçu, réussit à se faufiler jusqu'à la tête du cortège. C'était Hector Mancel. La tête baissée, il marchait à côté de la délégation du syndicat. Devant lui se trouvaient M. Escamp, Jean Rivière, le concierge Jobert, Harry-Paul Donat, Elisa, femme de chambre, 2 ou 3 femmes inconnues et M. Pommier. Le convoi prit le boulevard Raspail. Tout le long de la route qui mène au cimetière Montparnasse, une foule énorme était rassemblée. Hector Mancel, lui, semblait soucieux. Sa flamme, son ardeur du début, s'était envolée, semblait-il. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Parfois seulement, il levait une seconde les yeux, comme pour s'assurer que ceux qui le précédaient n'avaient pas disparu. Une fois pourtant, il se retourna. Une interminable file de gens suivait pieusement la dépouille de l'artiste. Une demi-heure plus tard, le convoi arrivait boulevard Edgar Quinet.
Il vint se ranger devant l'entrée principale. Puis le cercueil fut transporté sur l'emplacement où devait avoir lieu l'inhumation. Une fosse était déjà creusée. Un homme d'un certain âge, à la barbe blanche, le président de la Confédération des spectacles, prit alors la parole.
« En un moment comme celui-ci, commença-t-il, nous ne pouvons que mieux saisir la qualité de la perte que nous venons de subir. Elle était celle qui n'est plus, la synthèse vivante de la cinématographie française. »
La journée était délicieuse. Des buissons parsemés entre les tombes s'élevait un frais gazouillis d'oiseaux. Frappé par le contraste de cette cérémonie et de la nature en fête, personne ne remuait. Pourtant, il était un homme qui, insensiblement, se rapprochait de M. Pommier. C'était Hector Mancel. Quand il fut à 1 mètre seulement du malheureux père, il observa. Ce dernier pleurait. À son côté, M. Escan semblait se recueillir. Le visage de ce dernier était ravagé. De temps à autre, il jetait un regard peureux sur la fosse béante qui s'ouvrait à quelques pas de lui.
« Elle était, continuait le président, l'actrice française sur laquelle nous fondions les plus légitimes espérances. Modeste, toujours prête à secourir ses amis dans le besoin, elle ne vivait que pour l'art. Aujourd'hui, sous ce ciel radieux, elle nous quitte pour toujours. Minute émouvante, minute tragique. »
Hector Mancel, bien qu'il parût profondément touché par ce discours, ne l'écoutait pas. Il s'était un peu porté sur la droite, de manière à ne rien perdre des jeux de physionomie de M. Pommier et de son voisin M. Escan.
Minute inoubliable. Pourtant, qu'une pensée vienne nous apporter un peu de consolation. Suzy Pommier ne nous a pas complètement quittés. Un peu de son cœur, un peu de sa vie trépidante que nous avions tous admirée en elle, demeure sur la pellicule froide et grise. Quand, dans les années futures, nous ressongerons à celle qui sut nous apporter tant d'heures d'oubli, quand, dans les années futures, nous essaierons de nous représenter le visage de celle qui porta le nom de Suzy Pommier, nous aurons la consolation de penser que l'image en est restée éternelle. »
M. Escan avait pâli. Un tremblement agita ses mains gantées de noir.
Car, aussi vivante, aussi jeune qu'elle était il y a quelques heures, elle apparaîtra à nos yeux émerveillés. Peut-être avait-elle le pressentiment de sa mort. Peut-être est-ce elle qui contraignit cette grande artiste à consacrer en un art encore balbutiant.
M. Pommier porta une main à son front. Il semblait qu'il ne pût supporter davantage les paroles du président. Hector Mancel ne le quittait pas des yeux. Soudain, il surprit une scène étrange. M. Escan se pencha vers le malheureux père et, en se baissant pour pouvoir lui parler à l'oreille, il murmura quelques mots. M. Pommier se tourna alors vers lui, le regarda dans les yeux.
« Vous mentez, Monsieur Joachim !» dit-il dans un souffle.
Joachim Escan baissa la tête, accablé, et ne répondit pas.
« Joachim !» murmura Hector Mancel. « Son prénom est Joachim !»«
Vous mentez !» répéta plus fort M. Pommier. L'inspecteur s'était encore approché, de manière à ne pas perdre un mot de cette scène.
« Adieu, Suzy Pommier ! Que votre nom demeure à tout jamais gravé dans le cœur de ceux pour qui... « L'art n'est pas un vain mot. »«
Vous mentez, vous mentez !» dit encore M. Pommier. Mais cette fois si haut que certains des assistants se retournèrent. Joachim Escan porta un doigt à sa bouche.
« Ne criez pas, ne criez pas » souffla-t-il.
Cette fois, ce fut au tour de M. Pommier de ne pas répondre. Son corps se pencha en avant comme s'il allait tomber. Mais dans un sursaut, il parvint à se redresser. Soudain, il poussa un cri perçant. Sans interrompre, le conférencier, qui en était justement à sa péroraison, jeta un regard sur le groupe d'où provenait ce cri.
« Adieu, Suzy Pommier ! que votre père trouve une consolation dans votre gloire qui n'ira que grandissant. »
L'émotion était à son comble. À chaque instant, les yeux se tournaient vers le pauvre homme qui, au dernier moment, n'avait plus eu la force de se contenir.
« Vous avez menti !» répéta encore une fois M. Pommier.
Puis, brusquement, alors que le président se recueillait une seconde pour vaincre sa propre émotion, M. Pommier, comme un fou, se fraya un passage dans la foule.
« Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer !» criait-il.
La stupéfaction que causait cette attitude empêcha les spectateurs d'agir. Sans offrir la moindre résistance, ils laissèrent le vieil homme se faufiler jusqu'à l'air libre. Dès qu'il se trouva dans une allée, il se mit à courir. Tout à coup, il trébucha, tomba de tout son long. À ce moment, on voulut le relever. Mais il était déjà reparti, nu-tête, les vêtements couverts de poussière.
« Il est devenu fou! La douleur lui a fait perdre la tête !» criait-on de toutes parts.
Les hommes se lancèrent à sa poursuite. Parmi eux se trouvait Hector Mancel. Arrivé à l'entrée du cimetière, il hésita une seconde, se retourna. Il aperçut ses poursuivants qui s'approchaient. Alors de nouveau, il fonça en avant. En courant, il longea le boulevard Edgar Quinet. À la hauteur du boulevard Raspail, Hector Mancel n'était plus qu'à quelques mètres de lui. M. Pommier l'aperçut. Dans un effort dont on ne l'eût pas cru capable, il continua de courir de plus belle. Mais ses forces ne tardèrent pas à l'abandonner. Brusquement, sans raison apparente, comme si un ressort intérieur venait de se briser, il tomba sur les deux genoux à la fois.
« Pourquoi vous sauvez-vous comme cela ?» lui demanda le jeune inspecteur en le relevant. « Qu'avez-vous donc ?»
M. Pommier regarda son interlocuteur avec des yeux privés de toute expression. Un attroupement s'était déjà formé. Le père de Suzy, incapable de parler, respirait avec peine. À un moment, il faillit retomber à terre.
« Conduisez-le donc au café et donnez-lui un cordial, » observa un passant.
« Il vaudrait mieux le ramener chez lui, » remarqua un autre. M. Pommier était toujours dans un état d'hébétude, voisin de la folie. Il ne semblait pas même avoir reconnu Hector Mancel qui le soutenait. Finalement, sa respiration devint plus normale.
« Il me semble que je vais mieux, » murmura-t-il. « Lâchez-moi, monsieur, » continua-t-il en s'adressant au jeune inspecteur. « Je voudrais faire quelques pas. Mon Dieu, que de monde autour de moi! J'étouffe, qu'on me laisse respirer !»«
Écoutez-moi, écoutez-moi, » interrompit Hector Mancel avec autorité.
M. Pommier fit un pas, puis un autre, mais avec beaucoup de difficultés.
« Vous n'êtes pas encore complètement remis, » dit l'inspecteur. « Il vaudrait quand même mieux que vous rentriez chez vous. Je vais vous accompagner. »«
Oh non, pas tout de suite. Laissez-moi marcher, je vous dis. »
Hector Mancel obéit. Alors, avec une rapidité absolument incompréhensible, M. Pommier se remit à courir, sans regarder ni à gauche ni à droite, absolument comme une bête traquée, fonçant droit devant elle. L'inspecteur et quelques spectateurs de cette scène étrange se lancèrent à sa poursuite. Soudain, ils s'arrêtèrent pétrifiés. M. Pommier, sur le point d'être pris, s'était lancé sous un autobus qui descendait à toute vitesse le boulevard Raspail. Ce ne fut qu'une pauvre loque que les spectateurs terrifiés de cette scène ramassèrent. Le corps n'avait plus forme humaine. Le visage était méconnaissable. Un passant s'en fut téléphoné immédiatement à l'hôpital Cochin. Quelques minutes après, une ambulance arrivait sur les lieux de l'accident et emportait le corps. Hector Mancel, immobile sur le trottoir, regarda, songeur, la voiture disparaître à toute vitesse. Une de ses mains était fermée. Sans l'ouvrir, il la mit dans sa poche. Que serait-elle donc ainsi ? Une simple clé. Toujours songeur, il retourna au cimetière. Le corps de Suzy Pommier venait d'être inhumé et, peu à peu, le cortège s'éclaircissait. Il chercha des yeux Joachim Escan, mais ce dernier était déjà reparti. Alors le jeune inspecteur se rendit à la station de taxi la plus proche.
« Rue Lévis, »
dit-il au chauffeur.